Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Chaque jour de la semaine dans Priorité Santé, nous échangeons avec vous, auditrices, auditeurs. Et aujourd'hui, c'est aux questions des plus jeunes d'entre vous que nous allons répondre. Questions sur des sujets qui préoccupent chacune, chacun, mais qui ne sont pas forcément faciles à aborder en famille ou entre amis, et même lorsque l'on s'adresse à un médecin, un agent de santé ou un pharmacien. Pas facile de poser des questions sur les règles, sur le corps qui change, difficile de savoir ce qui se passe vraiment lorsque l'on entre dans le cabinet d'un gynécologue. Que faut-il faire pour se protéger lorsqu'une relation amoureuse implique aussi une relation intime? Anatomie, sexualité, consentement, contraception, à qui en parler quand on a peur d'être jugé? Et surtout, comment trouver le bon interlocuteur quand de fausses informations circulent sur les réseaux sociaux, lorsque tout le monde s'improvise spécialiste sans en avoir nécessairement les compétences? Comment trouver les mots? Si vous avez des questions, si vous avez un message à nous faire passer, bien sûr, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Ce matin, on vous donne la parole. Parler aux jeunes femmes, aux jeunes filles de leur corps, de leur santé, de leur sexualité. Avec nous, en studio, docteur Lorraine Jacob, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue consultante à la Maison des Femmes à Saint-Denis, en région parisienne. Et à mes côtés, grand plaisir de recevoir dans Priorité Santé, Adja Idrissaba. Bonjour Adja.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du Parlement des enfants, présidente fondatrice du Club des jeunes filles leaders de Guinée-Conakry et étudiante. Et à ce titre, Adja, vous défendez les droits des femmes et de l'enfant. Et vous aurez l'occasion au cours de cette émission de poser des questions aussi bien au docteur Jacob qu'à nos auditrices, car il va bien sûr être question dans cette émission d'accès à la santé, mais aussi de droit à la santé, de prévention et d'information.
Priorité santé sur RFI.
On vous donne la parole, docteur Jacob et Adja Idrissaba, dans quelques minutes. Mais pour commencer cette émission au lendemain du décès de Jacques Chirac, nous souhaitions évoquer son parcours, la marque que laisse l'ancien président de la République française en matière de santé publique et de santé mondiale, le legs de Jacques Chirac en matière de santé. Et pour cela, eh bien, nous sommes en ligne avec le professeur Michel Kazakchine. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Professeur, vous êtes actuellement conseiller spécial de l'ONU SIDA en Europe de l'Est et en Asie centrale, ancien directeur du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Quel souvenir conservez-vous à titre personnel de Jacques Chirac?
J'ai de nombreux souvenirs puisque j'ai eu le privilège de vivre la naissance du Fonds mondial auprès du président Chirac, et je garde le souvenir d'un homme très sincèrement engagé dans les questions de santé, et le sida et la santé mondiale, quand on y pense, sont au carrefour de son engagement sur la santé, de son engagement dans la lutte contre les inégalités, son engagement pour le respect de la diversité, et aussi... Le sida est très vite apparu comme étant un problème qui allait demander une solution collective et une solidarité mondiale. Et la solution, c'était le dialogue multilatéral et le multilatéralisme qui était toujours au cœur de sa philosophie politique. Et le Fonds mondial auquel le président Chirac a largement contribué en termes de conception, et auquel il a fait contribuer la France financièrement de façon très importante. La France reste le deuxième donateur du fonds depuis sa naissance, il y a 20 ans maintenant. Tout cela a été inspiré par le président Chirac. Donc,
avec Michel Kazakchine, excusez-moi de vous interrompre, juste, je voudrais un petit retour en arrière par nos archives avec ce moment fondateur. On est en 1997 à Abidjan. C'est la 10e conférence internationale sur les maladies sexuellement transmissibles et le sida avec ce discours de Jacques Chirac.
Les multithérapies n'ont été mises à la disposition des malades que dans un nombre beaucoup trop restreint de pays. Nous n'avons pas le droit d'accepter qu'il y ait désormais deux façons de lutter contre le sida, en traitant les malades dans les pays développés, en prévenant seulement les contaminations au sud. Comment pourrions-nous continuer à invoquer les droits de l'homme et la dignité humaine dans les enceintes internationales si, dans le même temps, à l'abri des meilleures raisons, nous acceptions que des millions de malades restent privés pour toujours des thérapies les plus efficaces. Nous devons tout faire pour que le bénéfice des nouveaux traitements soit étendu aux peuples démunis d'Afrique et du reste du monde, là où les populations sont les plus meurtries par la maladie.
1997, ce discours qui a marqué les esprits, même l'histoire, puisque cela débouche directement sur la création de ce fonds dont vous aviez pris alors la direction. Et puis aujourd'hui, les acteurs de la lutte contre la maladie rendent hommage à l'ancien président, comme le professeur Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine, présidente du SIDAction. En 2006, il y a la taxe Chirac sur les billets d'avion. Là aussi, pour financer la recherche et les programmes de terrain. Et puis, Jacques Chirac, c'est aussi d'autres domaines de la santé publique, le plan cancer, priorité nationale en 2002. Et puis, bien sûr, professeur Kazatchine, l'autre grande cause, la lutte contre les faux médicaments en Afrique, notamment l'appel de Cotonou, donc toujours l'Afrique au premier plan.
Oui, vous passez un extrait, là
où on a passé l'extrait. Les auditeurs ont entendu, justement, le discours d'Abidjan en 1997 cet appel à la communauté.
Une persistance pendant tout le mandat du président Chirac de ce souci de l'égalité, de ce souci de la santé et d'un effort collectif. Vous avez mentionné la taxe sur les billets d'avion. Le président Chirac avait demandé à ses services un rapport sur des financements innovants pour le développement. Et lorsque la taxe sur les billets d'avion lui a été présentée, il a lui-même décidé que cette taxe irait à la question de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, les grandes épidémies qui frappent l'Afrique et une grande partie du monde. Et l'appel de Cotonou allait pour moi tout à fait dans la même ligne. Comme vous le savez, vous en parlez souvent à RFI Santé, de nombreux médicaments circulent dans les pays en voie de développement qui sont de faux médicaments ou des médicaments altérés. Et c'est une grande cause qu'il a lancée à Cotonou. L'appel a ensuite été signé par le président Diouf de la francophonie. Et la Fondation Chirac continue aujourd'hui à mettre ce sujet dans ses grandes priorités. Et d'anciens collaborateurs du président Chirac qui ont aussi beaucoup contribué à la lutte contre le sida international, tel l'ambassadeur Jean-David Lévite, continue de travailler et devrait à ce que le président avait initié dans ce discours de Cotonou sur les faux médicaments.
Merci beaucoup, merci professeur Kazatchine pour ce témoignage, réaction. Et puis je rappelle bien sûr à nos auditeurs ce rendez-vous clé dans 10 jours, conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'annonce attendue à Lyon le 10 octobre pour récolter l'enveloppe dédiée à la lutte contre ces trois maladies. Et bien sûr, Priorité Santé sera sur place pour couvrir l'événement.
Priorité Santé sur RFI.
Nos deux invités, toujours avec nous en studio, le numéro de Priorité Santé 33 84 22 75 75, deux jeunes auditrices en ligne, prêtes à poser leurs questions à vous, docteur Lorraine Jacob, gynécologue, et à vous pour réagir, échanger avec ces auditrices, à Jai Drissaba. Alors, s'il y a en matière de santé, on le sait, des problématiques propres à certaines régions du monde, docteur Lorraine Jacob, l'accès à la contraception et même l'information sur le corps des jeunes filles, on peut dire que c'est une problématique mondiale, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de tabous et beaucoup, on va dire, de connaissances initiales qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Par exemple, pas mal de questions sur les règles, le cycle menstruel. Si on veut faire de la pédagogie, on a dit aujourd'hui on s'adresse aux plus jeunes, si on veut expliquer tout simplement, docteur Jacob, les règles, qu'est-ce que c'est ?
Bien, merci Caroline, merci de votre invitation. Permettez-moi de faire un petit aparté d'abord pour
Allez-y.
Dire mon émotion et ma joie d'être en face de Hadja Idrissa, mon admiration et vraiment tous mes vœux pour que tous les travaux de cette jeune fille et son engagement aboutissent. Je suis émerveillée.
Merci.
Voilà.
Voilà, maintenant le docteur reprend la parole sur l'émotion.
Sur l'émotion.
Mais ça fait plaisir à entendre quand même. Donc sur les règles, si on veut expliquer à nos jeunes auditrices, qu'est-ce que
effectivement,
c'est
très souvent, malheureusement, les règles, les jeunes filles ne sont absolument pas prévenues que les règles arrivent. Donc le jour où ça coule, il y a du sang. On est à la fois très inquiet et puis très gêné. C'est traumatisant. Donc première chose, il faut faire en sorte que les jeunes filles soient prévenues. Leur expliquer que c'est le corps qui grandit, les ovaires qui deviennent matures. Ça veut dire, en pratique aussi, que les ovaires fonctionnent et donc, s'il y a une sexualité qui commence, il y a une possibilité d'être enceinte. Alors, qu'est-ce que c'est que les règles ? Moi, j'explique toujours, très schématiquement, aux jeunes filles. L'utérus, c'est un petit écrin, c'est comme un petit berceau. L'intérieur est tapissé d'une muqueuse. La muqueuse, c'est tout ce qui tapisse l'intérieur de nos organes. Si on ouvre la bouche, ce qu'on voit, c'est de la muqueuse. L'intérieur de l'utérus, c'est pareil, c'est une muqueuse. Mais la spécificité de cette muqueuse-là, c'est qu'elle est sous l'influence des ovaires, des hormones. Tous les mois, elle se modifie pour éventuellement préparer l'arrivée d'un bébé, ce qu'on appelle l'anidation, c'est-à-dire l'implantation de l'œuf. Je compare ça, c'est comme un petit matelas pneumatique qui se gonfle. Un micro matelas pneumatique qui se gonfle, il n'y a pas de bébé qui arrive, le petit matelas se dégonfle, les règles arrivent. C'est rien d'autre, c'est ni une impureté, ni
et surtout ni une blessure, c'est important de le dire, c'est naturel.
C'est naturel, c'est naturel et c'est un signe de bon fonctionnement du corps.
C'est naturel et pourtant, on a du mal à en parler, on a même du mal parfois déjà d'avoir des informations sur les règles. Beaucoup de jeunes filles arrive devant ce jour, ce premier jour des règles, et elles ont peur, voire même, elles se sentent sales. C'est quelque chose que vous entendez quand vous échangez avec d'autres jeunes filles ?
Merci Caroline. Oui, fort malheureusement, aujourd'hui, cette situation nous inquiète beaucoup parce que la plupart des jeunes filles aujourd'hui qui atteignent l'âge de la puberté sont en manque d'informations. Et nous avons vu beaucoup de filles qui ont vu leurs règles à l'école parce que elles ne savent pas d'abord. Mais même si elles ont des grandes sœurs qui sont dans ces jardins, qui elles voient des cotons hygiéniques avec leurs grandes sœurs, elles viennent poser la question à leur maman. Souvent, les mamans disent bah, « Écoute, il y a un message qui viendra. » dans une enveloppe et tu sauras de quoi il s'agit. Donc, on voit que la chaîne n'arrive toujours pas à être brisée, même s'il y a peu de familles aujourd'hui qui acceptent d'en parler, mais c'est carrément un sujet tabou où les mamans qui, normalement, sont censées le faire avec les filles, oublient que, oui, si elles n'en parlent pas avec leurs filles, il y aura vraiment des conséquences, un traumatisme énorme. Et aujourd'hui, nous avons eu cette expérience-là. On a échangé avec plein de filles et sur 10, tu vas avoir 8 filles aujourd'hui ont vu leurs règles sans pour autant être informées sur c'est quoi les règles. Elles vont toutes penser que ce sont des blessures. Elles vont penser, voilà.
Qu'elles sont peut-être en danger.
Voilà, exactement. Mais après, il y a plusieurs conséquences qui suivent cela, des infections. Elles savent pas comment s'entretenir et comment prendre soin d'elles par
problème
manque
d'hygiène.
D'informations, tu vois. Donc, c'est vraiment compliqué tout ça.
Alors, tout à l'heure, vous parliez déjà du message. Ça veut dire que la famille donne une dimension mystique à l'arrivée des règles ?
Bien sûr que oui, parce que je sais pas si c'est une honte ou bien, en fait, nos mamans peut-être ont honte d'en parler avec les filles, parce que elles aussi, à leur tour, elles n'ont pas été informées avant d'avoir cela. Elles vont penser que c'est normal. Donc, en tant que femme, je dois pas parler de ça avec ma fille parce que voilà, c'est pas respectueux. Mais pourtant que si, c'est très important d'en parler avec les enfants. Mais ça se passe pas du tout. Les filles aujourd'hui ne sont pas informées des premières règles et ça a de graves conséquences après. Et à leur tour aussi, les mêmes filles, tu vas voir, elles vont engendrer des enfants, des filles qui ne seront jamais informées sur ça. Donc il est temps vraiment d'en parler à cette génération là pour que les autres générations soient suffisamment informées sur l'arrivée des règles.
Faire passer l'information. Justement, on va tout de suite donner la parole à nos auditrices.
Priorité santé sur RFI.
On va commencer avec une auditrice qui est au Sénégal, à Ziguinchor. Kadi, en ligne avec nous. Kadi, bonjour.
Bonjour Caroline.
On vous écoute Kadi, allez-y.
Voilà, en fait, la question que j'avais, c'est de savoir s'il existe des risques liés aux différentes méthodes de la contraception.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre situation, Kadi, par exemple, votre âge et votre situation familiale?
Voilà, donc j'ai 21 ans, je suis mariée et mère d'un petit garçon de 11 mois, bientôt un an. Je suis présidente d'une association ici au Sénégal, en particulier en Casamance.
Et en fait, vous souhaiteriez avoir accès à une contraception pour retarder, par exemple, la survenue d'un deuxième enfant, c'est ça?
Oui, en fait, c'est ça. Et aussi, donc, savoir vraiment quels sont les risques. Parce que comme on travaille en général avec des filles et tout, donc vraiment savoir quels sont les risques. Parce qu'elles sont, pour la plupart, après l'accouchement, on les propose automatiquement...
Une contraception.
Une contraception.
Est-ce que vous avez entendu, Kadi, justement, des informations? Vous demandez est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des informations qui circulent sur de possibles risques? Qu'est-ce que vous entendez?
Il y a. Parce que moi, par exemple, j'ai fait un sondage. Donc, pour demander à des gens comment se passe la contraception. Et sur 80% des gens, des réponses que j'ai eues, donc c'est des effets secondaires. Il y en a certaines qui me disent après qu'elles aient fait la contraception, donc elles ont eu des irrégularités par rapport au cycle menstruel. Donc pour d'autres, elles me disent quand elles ont atteint la période limite de la contraception, après c'est des problèmes pour refaire un bébé.
Mais de quelle contraception s'agit-il, Kadi? Parce qu'il y a plusieurs méthodes contraceptives.
Voilà, il s'agit des implants.
Des implants.
Oui, c'est ce qui est plus pratiqué ici chez moi. Voilà.
Donc, je vais me tourner vers docteur Lorraine Jacob. On comprend bien que la grande question sur le fameux risque associé à la contraception, c'est que cela agisse et un mauvais effet sur la fertilité pour après avoir d'autres bébés. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, docteur Jacob, à Kadi à ce sujet?
Je crois que je vais vraiment rassurer Kadi en lui disant qu'on est des millions de femmes à avoir pris des contraceptifs et avoir eu ensuite des bébés magnifiques, sans difficulté majeure. Alors, dans les contraceptions qu'elle évoque plutôt les contraceptions hormonales, qui consistent à bloquer l'ovulation. C'est vrai que quand on prend une pilule ou un implant, on a une méthode qui arrête le fonctionnement des ovaires pendant un certain temps. Comme je dis un peu en riant aux jeunes filles, prendre la pilule ou prendre l'implant, c'est mettre vos ovaires pendant un certain temps au chômage technique. Mais vous êtes jeune, Kadi, vous êtes jeune, vous avez 21 ans, vous avez déjà un enfant qui a presque un an. Donc, je pense que votre fertilité, elle est assurée. Vos ovaires, ils doivent être formidables. Donc, si vous prenez une contraception de ce genre et que vous l'oubliez, vos ovaires, ils risquent de repartir au quart de tour et vous pouvez très facilement vous retrouver enceinte. Bon, c'est sûr aussi que, dans certains cas, je vous dis, vous mettez vos ovaires au repos, bon, dans certains cas, effectivement, les ovaires mettent un certain temps à se réveiller et ça peut prendre un peu de temps avant d'être enceinte. De toute façon, il ne faut pas que se dire j'arrête ma pilule en mars, je vais être enceinte en mai. Les bébés, ils viendront quand ils viendront.
Y compris d'ailleurs quand on ne prend pas de contraception, on peut avoir décidé de faire un bébé, ça peut prendre quelques mois.
Ça peut prendre quelques mois et c'est absolument normal. Et heureusement, sinon je crois qu'il y aura vraiment un surpeuplement absolument effrayant.
C'est pas automatique. Kadi, moi j'ai une autre question. Vous avez des questions sur cette contraception. Il y a des interlocuteurs, il y a des personnes, justement, vous dites après la naissance, on m'a donné une contraception. Ça veut dire qu'après, il n'y a pas eu d'explication, ces questions, il n'y avait personne pour y répondre?
Non, parce qu'en fait, chez nous, ce qui se passe, avec les cas qu'on a, donc il n'y a pas d'explication. Donc, comme c'est en général des filles victimes de viol et de grossesse, donc juste après l'accouchement, une semaine après, il y a la méthode qui est appliquée. Donc après, on n'a pas de suivi, donc il y a crainte pour vraiment l'avenir, le futur vraiment de ces enfants, parce qu'en général, c'est des filles à âgées entre 14 et 15 ans.
Des grossesses très très précoces, et c'est une question sur laquelle bien sûr Adja voulait réagir, parce que parmi les causes contre lesquelles vous luttez, vous êtes mobilisée avec votre association, avec toutes vos amis à Conakry et ailleurs en Afrique de l'Ouest, c'est justement cette lutte contre les mariages forcés et ce qui va avec, les grossesses précoces, également les violences sexuelles.
Absolument, donc je rejoins ma sœur tout à l'heure lorsqu'elle parlait un peu de toutes ces informations qui passent pas comme on le souhaite, mais il faut rappeler aujourd'hui, on est en train de mener beaucoup de campagnes de sensibilisation pour la promotion des PF, mais il faut se poser ces différentes questions. Comment ça se passe? Qui est en train de faire passer le message? Et aujourd'hui, la jeunesse est en train de faire face à ces genres de difficultés. Certes, oui, on veut lutter contre les grossesses précoces non désirées, mais à un moment donné, il faut savoir partager la bonne information à celui qui veut la recevoir. Certainement, oui, on sait, il y a beaucoup de jeunes qui ont peur de poser des questions et ils vont peut-être sur le net pour trouver une solution, mais après ça va pas avec leur corps, il faut aller vers un médecin, vers un gynécologue qui va te donner la réponse que tu souhaites. Et fort malheureusement aujourd'hui, il y a les questions de fond qui sont mises devant, parce que bon, c'est un gynécologue expert seulement qui est appelé à le faire, mais vous savez, aujourd'hui on dit aux jeunes qui militent dans des associations, allez vous asseoir, on va vous payer une somme pendant quelques jours, vous allez faire la promotion de la PF. Alors que c'est
PF,
pas
des... je dis pour les auditeurs, excusez-moi de vous arrêter déjà, planification familiale.
Planification familiale, ce sont des personnes qui ne sont pas experts dans ce domaine et ils vont vous donner des informations, ils vont vous donner des conseils et vous allez aller pratiquer cela alors que c'est pas du tout bon pour votre corps. Donc voici, souvent des gens nous posent ces questions-là. Écoutez, on va utiliser les produits contraceptifs, ça va nous donner la stérilité, on va plus avoir des enfants, c'est pas bien pour nous et tout. Mais il s'agit de qui donne l'information. Il faut essayer un peu de légitimer un peu ces campagnes qui sont en train d'être menées afin qu'il n'y ait pas de conséquences que nous sommes en train d'entendre souvent. Certes, c'est très important que les jeunes, qu'on encourage les jeunes à aller vers des produits contraceptifs pour éviter les grossesses précoces non désirées, mais la meilleure information est aussi importante à recevoir.
Les deux, être bien informé, recevoir la contraception adaptée. On va remercier beaucoup Kadi à Ziguinchor et on va partir pour la Guinée, pour Conakry précisément, où l'on retrouve Kani. Bonjour Kani.
Bonjour.
On vous écoute Kani, allez-y.
Ok. Bon, moi j'ai un problème de lombalgie et une dysphorie. Il y a pratiquement 6 ans de cela. À chaque fois que je veux voir mes menstrues, j'ai une difficulté au fait à voir mes menstrues, accompagnée souvent de douleurs au niveau du dos. Mm-hmm. Et souvent, ces règles sont accompagnées des caillots de sang. Mmh. Bon, je voudrais savoir si c'est lié au fait que je sois excisée.
Mmh.
C'est un peu ça ma question.
C'est ça votre question, sur la nature, l'origine de ces douleurs, et puis des douleurs de règles et de très très fortes douleurs de dos qui arrivent donc, si j'ai bien compris, en même temps.
Oui, en même temps.
Et la question donc qu'on va poser au docteur Lorraine Jacob, c'est si ces deux symptômes peuvent avoir un lien avec une excision que vous avez subie, j'imagine, quand vous étiez toute petite.
Oui.
Docteur Jacob.
A priori, non. S'il n'y a qu'une excision, c'est-à-dire une section du clitoris, non. S'il y a eu une fermeture de l'orifice vaginal, si l'écoulement de sang est difficile,
peut-être
un peu, mais Kani a l'air de nous dire que elle expulse des caillots de sang, donc il y a peut-être quand même une petite rétention vaginale, mais très probablement beaucoup plus une rétention un petit peu dans l'utérus, un passage un peu difficile au niveau du col de l'utérus. C'est le phénomène qui explique les règles douloureuses. C'est presque toujours chez les jeunes femmes, jeunes filles qui n'ont jamais été enceintes. Le col de l'utérus est très très fermé, verrouillé. C'est ce qui fait qu'après, il tient bien pendant la grossesse, il tient bien le bébé bien au chaud. Et tant qu'il n'a jamais été un peu ouvert, l'expulsion du sang peut être un peu douloureuse. Et un peu douloureuse, un peu longue, et d'autant plus s'il y a des caillots, c'est encore plus dur à passer.
Et le lien avec le mal de dos.
Ah ben c'est associé. Ça peut être tout à fait lié à la position de l'utérus. Il est un petit peu plus basculé en arrière. Un certain nombre de jeunes femmes ou de jeunes filles ont l'utérus, ce qu'on appelle rétroversé, un peu basculé en arrière. Ça rend les règles souvent un peu plus douloureuses. Même sans rétroversion, on peut avoir mal au dos et mal au ventre. Et il faut prendre des médicaments. Il faut pas se contenter simplement de paracétamol. Il faut prendre des médicaments type anti-inflammatoire, non stéroïdiens, anti-prostaglandine. Pour éviter les contractions utérines. Ce qui est douloureux, c'est d'avoir des contractions utérines. Et il n'y a pas de raison de laisser souffrir les jeunes filles pendant toute leur vie d'adolescente et de jeune fille, tous les mois, pendant plusieurs jours, et d'être obligée de rester couchée. Il faut trouver le médicament. Il faut que...
Un médecin s'en occupe.
Que Cannie trouve un médecin qui lui donne le bon médicament, quitte à en prendre certains qui peuvent être un peu forts.
Cannie, est-ce que vous êtes déjà allée consulter pour ces douleurs associées à vos règles?
Bon, à chaque fois que j'ai ces douleurs, quand je vais, on me donne un antalgique. C'est un peu ça.
Vous prenez un antalgique. Et de quelle nature, cet antalgique?
Bon, on me donne du Novalgien, je sais pas.
Est-ce qu'on vous donne justement, comme vous le préconisez, le docteur Jacob, un anti-inflammatoire?
Non.
Alors peut-être il faudrait retourner consulter même un généraliste, pas forcément un gynécologue, à qui vous parlez, vous décrivez bien vos douleurs, quand est-ce que ça arrive, à quel moment, et puis que c'est quelque chose qui dure depuis assez longtemps, pour que juste le temps des douleurs, hein, pas tout le temps, mais le temps de ces douleurs, vous puissiez prendre ce traitement pour vous soulager, c'est très important.
Ok.
Je me permets quand même d'ajouter que si on n'arrive pas à venir à bout des douleurs menstruelles, il y a des jeunes filles qui ont vraiment des douleurs très pénibles, on peut en venir à utiliser la pilule pour réduire le flux et du coup réduire absolument les contractions utérines.
Parce que la pilule contraceptive, elle est utilisée certes comme contraceptif, mais quand on a par exemple des règles douloureuses, ça peut être aussi, même si on n'a pas de relations sexuelles, ça n'engage à rien, c'est juste pour éviter ces fortes douleurs.
Absolument.
Donc voilà, c'est aussi dans certains cas un médicament.
Tout à fait.
Adja, vous vouliez réagir par rapport à ça, les douleurs, est-ce qu'on en parle entre filles quand on est entre soi? Parce qu'en général, c'est pas quelque chose dont on se vante. Et pourtant, on sait que au moment des études, c'est quelque chose qui peut faire rater la classe, faire rater des cours et provoquer un absentéisme inégalitaire parce que les filles sont plus absentes que les garçons à cause de ça.
Absolument. Quand j'entends cette fille parler, je vois beaucoup de filles devant moi qui aussi ont les mêmes douleurs tout le temps et même en classe, par exemple. Je me souviens, souvent, il y a certaines filles qui ne venaient pas et toujours, elles disent à la direction, bon, écoute, j'ai mal au dos, il faut que je rentre. Et puis, elles ratent beaucoup de cours. Et ça, c'est, et puis, ce qu'elle vient de dire tout à l'heure par rapport au Novalgien et ce qu'on lui propose souvent, c'est la réalité. C'est le médicament que nous on retient. Dès que tu as des maux de règles, pendant que tu vois tes règles, tu as des maux de dos, de ventre et tout, on te propose directement du Novalgien, tu vas à la pharmacie, tu prends. Et j'en connais assez de filles qui passent toute la journée au lit, pendant ce temps, leurs amis sont en train de réviser ou de lire leur cahier et tout. Et pendant que elles sont là, bon, parce que je suis une fille, aujourd'hui, moi, je suis obligée de rester au lit à cause de mes règles. Mais je pense qu'il y a une solution à ça. Il faut que les docteurs y pensent par rapport aux règles douloureuses et proposer de vrais médicaments aux filles. Donc, comme docteur vient de le dire tout à l'heure, je pense qu'il faut aller consulter des gynécologues pour nous proposer vraiment des anti-inflammatoires qui sont assez importants.
Des choses adaptées. Voilà. Absolument. Oui, on remercie Cannie. Hein. Merci beaucoup, Cannie, pour votre appel et votre témoignage. Dans quelques instants, on va reprendre les auditrices, mais si vous voulez bien, on va faire un petit détour. On va aller en République démocratique du Congo pour parler justement de la contraception. Dans ce pays, la RDC, l'accès à la contraception pour les femmes et les jeunes filles reste encore très limité. Hein. 8% des femmes seulement au niveau national, 20% à Kinshasa, la capitale, beaucoup moins en zone rurale évidemment, avec de nombreuses grossesses non désirées. Et le plus souvent, cela se termine par un avortement clandestin au péril de la vie de ces femmes. Et c'est même l'une des principales causes de mortalité maternelle en RDC. Tout de suite, un reportage dans le quartier de Kingabwa à Kinshasa où Médecins du Monde a mis en place un programme dédié à la prévention, à l'accès à la contraception et à la prise en charge de ces grossesses non désirées. Reportage de Florence Maurice.
Centre de santé La Main de Dieu à Kingabwa, un quartier enclavé et pauvre de la capitale congolaise.
Bonjour madame.
Ce matin, Sylvain Mbémé, infirmier, reçoit en consultation Mélanie, assise timidement devant lui. La jeune femme l'écoute lui présenter les différentes méthodes de contraception.
Celui-là, par exemple, peut éviter de tomber enceinte pendant 3 mois, juste avec une piqûre. Mais si tu es en couple avec un homme, tu ne pourras pas concevoir. Et après 3 mois, il faudra revenir pour le renouvellement.
À 24 ans, Mélanie est déjà tombée 2 fois enceinte sans le vouloir. Récemment, elle a avorté de sa seconde grossesse. Malgré cette expérience difficile, elle n'utilise toujours aucune contraception.
J'ai toujours eu peur de prendre une contraception à cause de toutes les rumeurs qui circulent. On te dit si tu la prends, tu vas perdre beaucoup de sang ou alors tu n'auras plus tes règles du tout et tu vas devenir stérile. Pourtant, il y a une de mes sœurs qui s'est fait poser un implant contraceptif valable 5 ans. J'ai vu qu'elle le supportait bien.
Finalement, ce jour-là, après quelques hésitations, Mélanie repart avec un implant, elle aussi.
J'avais donné mon accord au médecin après l'avortement, mais j'avais besoin de revenir en consultation pour être totalement rassurée.
Mélanie reste une exception. En RDC, seuls 8% des femmes accèdent à la contraception. Un taux très faible dans un pays où elle est en théorie un droit pour toutes les femmes en âge de procréer et depuis un an sans autorisation maritale. Mais les freins restent nombreux. Parfois, les contraceptifs ne sont pas disponibles. Même s'ils sont gratuits, il faut payer la consultation préalable et elle reste mal vue dans certaines familles. Sylvain Mbémé, l'infirmier, en a fait l'expérience.
Il y a des fois, la femme vient ici. Il vous dit que nous nous sommes entendus avec le mari à la maison pour qu'elle prenne une méthode contraceptive. Mais après un moment donné, vous allez se retrouver devant 2 personnes. Le mari et la femme déclarent comment est-ce que vous avez donné l'implant à la dame sans mon autorisation. Mais après, le prestateur est là toujours pour convaincre le mari qu'il puisse accepter ce que vous avez appliqué à sa femme.
Dans ce centre de santé appuyé par Médecins du Monde, le personnel a été formé, mais c'est loin d'être le cas partout. En RDC, l'entrée dans la vie sexuelle est précoce. Il arrive aussi que le sexe se monnaie à cause de la pauvreté. Résultat, un quart des jeune fille tombe enceinte avant 19 ans, un problème majeur de santé publique, reconnaît Jean-Alphonse Chica, conseiller technique au ministère du Genre.
Les enfants déjà à l'âge de 12 ans, 14, 15 ans, se trouvent déjà dans ces choses-là. Elles ont déjà moins d'informations, elles sont très exposées, elles tombent facilement en grossesse. Il y a le programme national de la santé de la Révolution qui fait un travail de terrain avec les adolescents et tout ça, mais nous avons un pays très grand. Est-ce que les milieux ruraux sont atteints ? Etc. Et par conséquent, la problématique des grossesses non désirées se pose avec acuité.
À Kinshasa, selon le ministère, plus d'une grossesse sur 2 est non désirée et parmi elles, les 2/3 se soldent par un avortement. Une pratique très fréquente donc, même si elle reste interdite en dépit d'une avancée législative l'an dernier. L'immense majorité des avortements reste donc clandestin. Henriette Kilundu supervise la zone de santé de Kingabwa. Elle reçoit régulièrement des femmes qui ont failli perdre la vie en tentant d'avorter.
Ils prennent parfois des produits artisanaux, parfois aussi des produits de la pharmacie, mais qui est pour le traitement autre que le manœuvre abortif.
Quoi par exemple ?
Le Cytotec. C'est un produit qu'on donne à la femme à l'accouchement s'il n'y a pas de contraction. Il y a le tétracycline aussi, antidiarrhéique, que eux prennent ça à forte dose alors. Eh bien, ça amène l'adolescente avec une complication grave et demain, elle trouve la mort suite à l'arrêt de la grossesse.
C'est ce qui a failli arriver à Esther, abandonnée par son compagnon à l'annonce de sa dernière grossesse et déjà mère de 3 enfants.
Je m'étais retrouvée seule, je suis allée à la pharmacie, j'ai demandé des produits pour avorter. On m'a dit que je pouvais prendre un produit là qu'on m'a donné. Il m'a dit de prendre toute la plaquette et ça va directement épulser la grossesse. J'ai pris les 10 comprimés là et j'ai commencé à signaler que la grossesse, j'ai commencé à avoir des douleurs, des astreuses douleurs là. Au lieu que la grossesse, ça ne sortait pas, mais c'est mal, le sang qui coulait. Et puis j'avais des vertiges, des faiblesses, tout ça.
Grâce au conseil d'une amie, Esther a pu être prise en charge à temps. Mais combien de femmes meurent dans ces conditions ? Difficile d'avoir des chiffres fiables. Une étude d'un institut spécialisé estime toutefois qu'en 2016, au moins 150 000 avortements clandestins ont été pratiqués dans la capitale.
Florence Maurice pour ce reportage à Kinshasa. Docteur Lorraine Jacob, je voyais réagir face à cette réalité parfois très cruelle du terrain, mais sans jugement, rappeler des choses essentielles. Des grossesses précoces, des grossesses non désirées, cela fait courir de réels risques en termes de santé des femmes. C'est dangereux, tout simplement.
C'est très dangereux. pour le développement de l'utérus, pour au moment de l'accouchement, pour l'état du bébé, pour la santé physique et psychique des femmes. Et puis, bien évidemment,
accueillir ces très, très jeunes filles sont
dans l'impossibilité, l'incapacité d'accueillir des enfants dans des conditions normales. Et il faut. Avant tout, il faut arriver à protéger les femmes et faire en sorte que l'arrivée d'un bébé soit liée à un consentement, à un désir, à un accord avec la grossesse. Il faut être d'accord avec la grossesse. Et à 12 ans, on peut pas être d'accord.
Adja Idrissaba, une lutte, hein, ces grossesses précoces, entendre que des petites filles, parce que ce ne sont pas des femmes, il faut parler des choses comme elles sont. Comment comprendre que des hommes parle de séduction, parle de relations sexuelles, où qu'on soit dans le monde, avec des enfants, comment est-ce que vous battez contre ça ?
Incompréhensible. C'est vraiment pas possible qu'une petite fille de 12 ans ou de 13 ans tombe enceinte, comme l'a dit tout à l'heure docteur, parce que à ce niveau-là, nous, notre combat, c'est de mettre fin au mariage des enfants. Et pourquoi on met fin au mariage des enfants ? C'est pour mettre fin aux grossesses précoces au niveau de l'enfant, de la jeune fille en question. Imagine une petite fille de 12 ans qui tombe enceinte. Elle est à l'école. Elle est obligée d'abandonner son école. Son avenir est vraiment ruinée. Et elle sera obligée, même si elle aura des problèmes sanitaires, mais aussi sur son avenir, sa formation, tout ce qu'elle fait, tout sera ruiné. Carrément, elle peut pas. Elle sera obligée ici de prendre soin de son enfant que de prendre soin d'elle-même. Et c'est carrément compliqué. Et à ce niveau-là, je pense, il faut absolument que les parents reprennent leurs responsabilités face aux enfants. Et si, toutefois, on sait que mon enfant a atteint l'âge de la puberté, il faut que je lui conseille, je lui donne les bons conseils. Parce que souvent, ce sont des sujets tabous qui font que ces jeunes filles-là vont essayer. Elles vont dire, bon, vu que personne ne m'en a parlé, je vais essayer.
Elles ne savent pas ce qui se passe.
Et c'est dans cet essai-là qu'elles vont tomber dans le piège et elles vont dire, si je savais. C'est très complexe. À ce niveau-là, je pense qu'il faut que les parents puissent vraiment en parler avec leurs enfants, les jeunes filles en question. Ne jamais dire que parce que c'est mon enfant, je vais pas parler de sexualité avec mon enfant. Sinon, tu tomberas dans l'erreur et ces enfants-là, vous allez voir, la plupart de ces enfants sont rejetés par leurs parents. Et elles vont tomber enceintes, les parents vont dire « Sors de chez moi, vas-y chez la personne qui l'a fait. » Et quand la petite fille se retrouve au dehors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle est déjà non seulement traumatisée à cause de la grossesse qu'elle a eue, mais traumatisée aussi du fait qu'elle est carrément rejetée dans la société. Et ça a un impact très très grave sur la santé psychologique de la jeune fille qui ne va jamais oublier cela dans sa vie. Et je pense qu'il faut vraiment y remédier. Et nous sommes en train de faire des sensibilisations en Afrique. Toutes les associations avec les jeunes, on a des tables rondes qu'on anime souvent dans les écoles, pas que dans les écoles, les salons de coiffure, partout il y a des jeunes filles, des adolescentes, on échange avec elles, on a l'impression qu'elles veulent parler, elles ont quelque chose en elles, elles veulent dire, mais par contre elles ne savent pas avec qui parler.
Les questions, elles sont là.
Les questions sont là et elles témoignent, tu vas voir des filles qui témoignent, j'ai eu ça, j'ai rencontré telle personne qui m'a proposé telle chose et on les donne des conseils. À partir de l'âge de 18 ans, parce que nous on considère qu'à moins de 18 ans, c'est un viol. Si un monsieur plus âgé essaye d'abuser d'un enfant qui a moins de 18 ans et qui tombe enceinte dans ça, on va porter plainte contre le monsieur qui l'a fait parce que c'est un viol et c'est un enfant. Mais à partir de 18 ans jusqu'à devant, là c'est son avis, c'est elle qui sait, donc c'est avec son consentement que ça va partir. Et de l'autre côté, on ne demande pas du tout le consentement de l'enfant.
On va tout de suite reprendre des auditrices en ligne.
RFI
Conakry qui nous appelle encore aujourd'hui. La Guinée, c'est Mariam Cissé qui est en ligne. Bonjour Mariam.
Bonjour Caroline, bonjour à vous tous.
On vous écoute, allez-y.
En fait, ma question est que j'ai des pertes blanches, mais là, je n'arrive pas à les guérir.
Mm-hmm.
Et comment les guérir ? C'est ce que je voudrais savoir.
Alors là, c'est beaucoup trop vague, hein, Mariam Cissé, donc on va poser davantage de questions. Vous avez déjà pris des traitements ? Vous avez déjà consulté un médecin ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Oui, j'ai consulté beaucoup même des médecins, mais quand je vais là-bas, on me donne de piqûres. Quand je finis de prendre seulement, ça reprend aussi. Ou bien des suppositoires. Je pris beaucoup de médicaments là, mais quand je finis de prendre seulement, ça recommence. Quand je finis seulement de voir mes règles, ça commence. Ça s'arrête aussi à la nouvelle règle.
Ça s'arrête au moment des règles, ces pertes s'arrêtent au moment des règles, mais par contre, les médicaments que vous prenez ne règlent pas complètement le problème, ça revient à chaque fois quand vous arrêtez le traitement, c'est ça?
Oui.
Docteur Lorraine Jacob, qu'est-ce que vous pouvez dire à Mariam?
Il faudrait que Mariam précise un petit peu. Il y a deux types de pertes blanches. Il y a des pertes blanches qui sont tout à fait normales, ce qu'on appelle la glaire, qui en général est translucide, très filante, un peu comme du blanc d'œuf cru, jusqu'à l'ovulation, et entre l'ovulation et les règles suivantes, c'est un petit peu plus jaune paille et un peu plus épais. Ça peut être très très abondant chez certaines filles et ça peut entraîner, si vous avez un jean serré, une culotte un peu serrée, en fin de journée, une odeur un peu désagréable. Mais c'est strictement normal. Là où ça devient pas normal, c'est si ça entraîne des démangeaisons, des grattages, si ça s'accompagne de boutons, ou si ça a des couleurs franchement anormales, avec un peu soit un peu de sang, soit un peu verdâtre, soit vraiment une odeur très 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 désagréable et persistante toute la journée depuis le matin. Auquel cas, il faut absolument consulter. Et je pense que il suffit pas que votre médecin ne doit pas simplement vous donner un médicament, il faut qu'il regarde, il faut qu'il fasse des prélèvements à la recherche d'une infection bactériologique ou qu'il vérifie que vous n'avez pas des petites lésions cutanées, c'est sur la peau au niveau du sexe, et à partir de là, qu'il traite.
Donc il y a une question importante, hein, Mariam. Quand vous êtes allée consulter, est-ce que vous vous êtes déshabillée? Est-ce qu'il y a eu un examen?
Oui.
Et qu'est-ce qu'a dit le médecin à ce moment-là?
Elle m'a dit que c'est devenu une infection.
Mm-hmm.
Maintenant, j'ai fait l'examen. Elle m'a donné des injections et puis des suppositoires. Et puis quand j'ai fini de prendre ça, et ça a repris. Et puis ça gratte aussi. Et puis ça sort beaucoup de fois, même ça change de couleur, ça devient un peu jaune.
Vous dites des suppositoires, il ne s'agissait pas plutôt d'ovules? Ce ne sont pas des choses qu'on introduit, si je ne me trompe pas.
Oui, au niveau du vagin. Les traitements qu'on donne pour ce genre de pertes, ça se présente comme des suppositoires, mais ça s'introduit dans le vagin.
C'est ce que vous avez bien fait au cours du traitement?
Oui.
Oui. Donc vous avez suivi les conseils du médecin, mais apparemment ça n'a pas réglé le problème.
Non. Alors, il se peut qu'il faille demander aussi à votre médecin de vous donner, après le traitement spécifique de cette infection, un petit traitement complémentaire pour refaire une flore vaginale normale qui va permettre aux défenses de reprendre spontanément.
Parce que peut-être que certains antibiotiques ont carrément trop nettoyé, il y a l'irritation qui revient.
Et parce qu'il y a ce qu'on appelle une flore vaginale normale qui maintient une certaine acidité au vagin qui est nécessaire pour se défendre des infections. Et certains traitements, effectivement, empêchent cela. Et à la fin de ces traitements, il faut reprendre ces petits médicaments qui se présentent en général sous forme de mini-gélules vaginales ou de petites injections à faire pendant quelques jours pour refaire une flore normale.
Donc Mariam, hein, le conseil, hein, on a bien compris avec tout ce qui a été échangé là, c'est de retourner voir le médecin pour une nouvelle consultation, pour régler votre problème. On vous remercie beaucoup, on vous souhaite une bonne journée à Conakry où l'on reste en ligne parce qu'il nous reste peu de temps, mais j'aurais aimé vraiment donner la parole à Roudiedji. Bonjour Roudiedji.
Bonjour.
On est à votre écoute, hein. Allez-y.
D'accord. Voilà, quelques questions.
Allez-y.
Ma première question, c'est quelle méthode contraceptive faut-il utiliser quand on a le goitre et qu'on envisage de vivre notre première expérience sexuelle?
Ça veut dire le goitre, un problème de thyroïde?
Exactement, un problème de thyroïde.
Mais un problème de thyroïde qui n'est pas traité, alors?
Bon, qui est traité.
Oui.
Bon, qui est traité, parce que vous savez, parfois, le goitre, même s'il est traité, quand on est très fatigué ou bien si on est en période de stress, ça revient un peu. Donc, ça déstabilise.
La question donc au docteur Lorraine Jacob, c'est est-ce qu'il y a une contraception spécifique quand on souffre de la thyroïde?
Non, l'essentiel, c'est de que vous soyez bien traité pour votre thyroïde et que votre sécrétion hormonale thyroïdienne soit parfaitement régularisée. À partir de là, il n'y a a priori aucun problème spécifique de contraception pour vous. Et au contraire, il y a tout intérêt à avoir a priori une bonne contraception tant que vous êtes soumise à des traitements pour la thyroïde.
Et en tout cas, bien évidemment, en consultation, en parler au médecin.
En parler, évidemment. Bien évidemment, en parler au médecin et bien prévoir avec le médecin au moment où vous souhaiterez être enceinte, avoir une grossesse.
Voilà, parce que là, cette grossesse, peut-être, avec un problème thyroïdien, bien, nécessitera un suivi particulier.
Peut nécessiter un suivi particulier, sans vous inquiéter pour autant, parce que c'est des choses très bien connues maintenant.
Roudiedji, est-ce que vous avez d'autres questions ?
D'accord. J'ai aussi une autre question. Mm-hmm. Est-ce qu'une mauvaise odeur de pâte blanche est une synonyme d'infection ?
Vous aviez en partie répondu à cette question.
Je crois que j'ai répondu avec la dame précédente. C'est tout à fait normal d'avoir un petit peu d'odeur au niveau de sa culotte en fin de journée du fait des pertes blanches qui s'accumulent quand on a une glaire un peu abondante. Là où ça devient pas normal, c'est si c'est vraiment toute la journée et que c'est très important et que vous sentez l'odeur un peu à distance.
Et si c'est après la toilette, là c'est pas du tout normal.
C'est pas normal, mais c'est pas signe d'une infection grave en général, c'est très souvent un petit germe extrêmement fréquent qui se soigne extrêmement bien, là encore, à condition de consulter un médecin qui vous donnera le médicament adéquat.
Le temps passe vite. Une dernière question, peut-être, Roudiedji, puis je donnerai la parole à Adja pour la conclusion. Allez-y.
Ok, d'accord. Pour les femmes qui ont été excisées, est-ce que peuvent-elles jouer pleinement de leur sexualité sans faire la reconstruction ? Alors, est-elle une autre méthode naturelle ?
Alors là, je pense qu'on y a déjà consacré des émissions entières. Mmh. C'est une question passionnante avec des réponses qui ne sont pas forcément tranchées. À chaque fois, on dit ça dépend des personnes, ça dépend de l'accès à ces traitements. En tout cas, docteur Jacob, vous voulez répondre sur cette interrogation qui est tout à fait légitime parce que on sait très bien qu'en Guinée, plus de 90% des jeunes filles ont subi une excision. Donc, on va dire que la plupart de celles qui nous appellent et justement qui sont guinéennes aujourd'hui sont concernées. C'est un vrai problème de santé publique. Cette chirurgie réparatrice, elle n'est pas forcément accessible dans les régions où les jeunes femmes qui en ont le plus besoin vivent. Donc, oui, c'est un vrai problème avec ces interrogations tout à fait légitimes sur le bien-être sexuel.
Alors d'abord, j'en profite pour resaluer le travail d'Adja et vraiment, il faut lutter contre ce problème de l'excision. Tout dépend pour le coup quand même de l'importance de l'intervention qui a été faite. Certaines interventions sont extrêmement mutilantes et effectivement le risque les possibilités d'avoir une sexualité heureuse sont très limitées. En revanche, quand l'excision est très limitée, très légère, on rencontre beaucoup de femmes qui arrivent à avoir une sexualité tout à fait harmonieuse.
Et ce qu'on remarque aussi, c'est que si le corps est impliqué, la parole aussi est très importante. Adja Idriss Abba, sur cette question, en parler, c'est déjà commencer un petit peu à dépasser le traumatisme. C'est important d'en parler.
Oui, c'est super important d'en parler afin de trouver une solution parce que souvent on pense que quand on est excisé, toutes les conséquences qu'on cite, on va subir ces conséquences-là. Alors à un moment donné, il y a plusieurs formes de mutilation génitale. Quand je prends la Guinée, il y a trois formes, donc ça dépend comme elle l'a dit. Mais à un moment donné aussi, il faut qu'on sache que en fait le problème de reconstruction, parce que la question qu'elle a posée, ça va beaucoup plus aussi sur nos traditions et nos valeurs. Et quand on dit qu'une femme va se reconstruire, c'est carrément on se pose la question comment une femme peut se reconstruire. S'il y a d'autres moyens avec lesquels vraiment la femme peut se sentir beaucoup plus à l'aise, c'est d'aller consulter un médecin, hein, comme elle l'a dit tout à l'heure. En fait, j'ai pas beaucoup de commentaires à donner là-dessus. Elle a déjà donné la réponse qu'il faut.
La réponse, on l'a compris au cours de cette émission, c'est en parler, s'informer et surtout avoir accès aux bonnes informations. On vous remercie toutes les deux. Merci beaucoup, docteur Jacob. Merci à Adja Idriss Abba. On se retrouve lundi. Nous parlerons lundi de la santé psychique des réfugiés à lundi.
C'était Priorité Santé avec Sunway Assurance qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunway Assurance, notre métier, l'assurance.